Bonjour et bienvenue à ce numéro d'Escale 17-18 sur les ondes de Canal M Fulgence là au micro. J'espère que vous allez bien et Nicolas à la technique. Voilà. Bon, aujourd'hui en première partie d'émission, il y a notre chroniqueuse de bénévolat qui sera avec nous, Marie-Danielle Boucher, qui va nous parler de bénévolat. Elle vient nous voir une fois aux 4 semaines. Voilà, et vous savez comment ça fonctionne. Le bénévolat, il y a des gens qui disent « je n'ai jamais le temps, je ne peux pas », tout ça. Elle nous explique tous les détails d'ailleurs. Et en deuxième partie de l'émission, je vais recevoir Michel Côté, le muséologue, de son livre, pour parler de son livre « Passion de musée de Québec à Lyon ». Pour ceux qui ne l'ont pas là, c'est tout un bijou. Voilà. Ne ratez pas, soyez avec nous à partir de 17h30 pour découvrir un peu les astuces que va nous donner Michel Côté sur les musées, comment lui-même, il dort, il rêve, il mange musée, voilà, partout où il est. On va en musique tout de suite avec Thomas Argouin, Fille sans nom.
J'ai même pas vu nager 12 fois, qu'on m'abandonne encore une fois. J'ai voilé mes yeux autant que j'ai pu, victime d'un mal inconnu. J'ai mal dans la bouche très loin de, partout je suis pris d'un mal sanglant. Une petite fille sans famille, dans la joie et le délire. J'ai perdu tous mes refrains, on a défait ma chambre un gris matin. 5 dollars en main, mon âme dépeint. Tu vas voir, tu vas être bien, avec une gang de fous au quotidien. Ma vie dans 4 gros sacs noirs, ma vie de vérité dérisoire. J'ai peur, j'ai froid, venez me chercher. À ma papa, je vais plus jamais vous déranger. J'ai peur, j'ai froid, venez me chercher. À ma papa, je vais plus jamais vous déranger. De ma grande fenêtre, je vous vois vivre, aux yeux qui ne peuvent plus pleurer, mon cœur de givre. J'ai grandi 5 printemps où l'amour me parlait. J'ai pensé mes plaies. On dit qu'ici on prend loin de m'aimer. J'en ai pas tant demandé. Une petite fille sans famille, dans la joie et le délire. J'ai perdu tous mes refrains quand je chante ici en bas. Le soir on est amis, quand on pleure en symphonie. Je sais pas c'est quoi leur maladie. Rappelez-vous juste nos noms. Ma vie dans 4 gros sacs noirs, ma vie de mensonge dérisoire. J'ai peur, j'ai froid, venez me chercher. À ma papa, je vais plus jamais vous déranger. J'ai peur, j'ai froid, venez me chercher. À ma papa, je vais plus jamais vous déranger. N'importe qui venait me chercher. Venait me chercher. N'importe qui venait me chercher.
Ouais, Thomas Argouin, Fille sans nom. Alors, notre invité est déjà au bout du fil, Marie-Danielle Boucher, qui va nous parler de bénévolat. Je suis content, nous sommes très heureux de la, de la réentendre au moins une fois par mois, ou bien un peu plus des mois. Bonjour Marie-Danielle Boucher.
Ça fait déjà trop longtemps, Fulgence.
Oh, oui, je me suis dit, non, ça fait presque plus de 6 semaines. J'ai dit, mais tiens, je ne vais plus la voir, ou bien quoi.
Ça fait plaisir, puis c'est une belle entrée tout en douceur, là, avec cette belle chanson.
Oh, ouais, de Thomas Arguin, Fille sans nom, ouais. Mm-hmm. Un texte d'Emmanuel Badcock. Voilà. Alors, comment Marie-Danielle Boucher se porte? Comment allez-vous?
Ah, ça va très bien, toujours dans le bonheur du bénévolat.
Oui.
On se prépare pour la journée internationale de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 5 décembre.
C'est donc bientôt, là. Mm-hmm. Ouais, un peu moins d'un mois.
C'est ça.
Oui.
Mais aujourd'hui, c'est ça, j'aimerais vous parler un peu des côtés un peu plus juridiques du bénévolat.
Oui. Je vais faire l'introduction rapidement avant que je ne vous laisse la parole. Merci d'avoir envoyé ce document d'ailleurs. Lorsqu'on veut faire du bénévolat, par exemple, avec des enfants ou des personnes malades, il n'est pas rare que l'on nous dise qu'on ne doit pas posséder de casier judiciaire. Ça, c'est clair. C'est normal. Mm-hmm. Mais les aspects juridiques du bénévolat vont-ils au-delà de la vérification des antécédents judiciaires? Et c'est ce que Marie-Danielle Boucher va nous faire comprendre. Et voilà, en fait, quels sont les droits et libertés du bénévole?
Ben, les bénévoles ont beaucoup de responsabilités, mais ils ont des droits,
oui.
Notamment les organismes... sont tenus de reconnaître les bénévoles comme des membres entiers, à part entière de leur équipe. Donc, ils doivent vraiment faire un processus de sélection pour sélectionner les personnes, puis que le processus de recrutement soit équitable pour que chacun ait la même chance, qu'il n'y ait aucune discrimination là, dans le choix des bénévoles.
Oui.
Que tout soit égaux. Donc, il y a vraiment un processus de sélection qui a été prévu par Bénévoles Canada. Bénévoles Canada, c'est l'entité nationale qui exerce un certain leadership au niveau du bénévolat au Canada.
Oui.
Et eux, ils ont vraiment développé un guide sur le filtrage des bénévoles pour que vraiment on puisse procéder de façon diligente dans le choix des bénévoles.
Pour que vous puissiez avoir les bons numéros.
Exactement, parce que la vérification des antécédents judiciaires, c'est que le principe derrière cette façon de procéder, on appelle ça le principe de diligence. C'est le principe de diligence qu'ont les organismes envers leurs bénéficiaires. Et vous l'avez mentionné, c'est souhaitable. Donc, ce principe, ça détermine l'obligation des personnes et des organismes de prendre les mesures pour assurer la sécurité des personnes vulnérables que vous avez nommées.
Oui.
Parce qu'eux, ils ne peuvent pas se protéger, là, soit en raison de leur âge ou d'une incapacité temporaire ou permanente. C'est pour ça qu'on le fait. Mais outre cet aspect légal-là, avec le filtrage des bénévoles qui propose plusieurs étapes aux responsables des bénévoles, ben ça nous permet aussi de protéger les organismes de ce qu'on appelle la responsabilité du commettant. Parce que...
On peut appeler ça aussi responsabilité juridique?
Oui, tout à fait. Parce que, par exemple, qu'est-ce qui arrive si un bénévole se blesse ou fait une faute grave? Est-ce que les assurances de mon organisme communautaire peuvent aider le bénévole dans son processus de rétablissement? Est-ce que mon bénévole va être protégé?
Oui.
Mais malheureusement, la loi ne protège pas de manière automatique les travailleurs de bénévoles. Donc, en principe, le bénévole n'aurait pas le droit à un dédommagement si un accident arrivait ou s'il était la cause d'un accident.
Mm-hmm.
Par contre, les organismes peuvent demander que les bénévoles, au même titre que les employés, bénéficient de certains avantages de la loi. Alors, c'est facultatif, mais on peut le demander gratuitement à la Commission des normes de l'équité, de la santé, de la sécurité au travail.
Je ne savais pas que c'était si compliqué que ça. Donc, si un bénévole se blesse, c'est comme s'il allait faire une marche, une promenade au parc et puis s'est blessé. Ça fait partie de ses heures de loisir, quoi.
Ben, le bénévolat n'est pas considéré comme un loisir ou...
Non. Mais.
Au sens propre de la loi. Mais là, bon, évidemment, il faut savoir que je ne suis pas une experte. Mais
oui.
Le bénévole est considéré au même titre qu'un employé
oui.
pour un organisme parce qu'il exerce une fonction qui permet à l'organisme d'apporter un service et de réaliser sa mission.
Là vous touchez donc, au statut du bénévole.
C'est ça.
Oui.
Donc, si le bénévole se blesse, ben, il peut être protégé, mais à condition que l'organisme ait fait une demande auprès de la commission de la CNSESC. Aidez-moi, Fulgence, j'arrive jamais à le dire correctement. CNESST.
CNESST, vous voyez, ça va?
Oui, la Commission des normes d'équité, santé et sécurité au travail.
Oh, ouais.
On a beaucoup entendu parler pendant le temps de la COVID.
C'est
ça. Donc, si l'organisme en fait la demande, puis qu'un accident survient,
oui.
le bénévole peut avoir droit à des indemnités, à de l'assistance médicale, à de la réadaptation
oui.
en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
OK.
Il faut s'informer auprès de l'organisme.
Ça, ça me tranquillise, là. Pour ceux qui nous écoutent aussi, qui entendent ça et se disent, bon, ben, si quelque chose m'arrive, ils ne sont pas responsables, qu'est-ce que je fais? Donc, ce sont mes assurances personnelles à moi qui vont me prendre en charge, mais à partir du moment où il y a une protection quelque part. En parlant du statut, moi, ça me... Je fais... Ça fait du bien d'entendre ça aussi, quelque
ouais.
part.
Mm-hmm. Oui. Parce que le bénévole est considéré, même s'il n'y a pas un contrat
oui.
Rémunéré, qui est vraiment qui vraiment ce qui détermine qu'on est employé lié avec un organisme.
Oui, mais vous le faites signer des petits papiers, non, quand même s'il n'y a pas de salaire.
Ben, il y a une entente.
Oui.
Il y a une entente. Puis ça fait partie des responsabilités de l'organisme que d'offrir un endroit qui est sécuritaire. Si je dois faire un travail, disons, manuel qui comporte certains risques de chute, ben, l'organisme est tenu de me donner la protection nécessaire pour me protéger, supposé de m'informer des risques liés à mon action bénévole.
Oui.
Ça fait partie des droits des bénévoles. Mais aussi, si l'organisme n'a pas fait la demande auprès de la CNSEST pour protéger ses bénévoles, ça ne le dégage pas de sa responsabilité parce que l'organisme doit se conformer aux mêmes obligations qu'avec un travailleur rémunéré. Donc, encore une fois, là, s'assurer que le travail, le lieu soit sécuritaire, qu'il y ait les équipements de protection nécessaires. De son côté, le bénévole, sa responsabilité, c'est de ne pas avoir un comportement négligent.
Oui.
Il doit faire attention à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité des autres travailleurs ou des autres bénévoles.
Avec toutes les autres personnes à qui il interagit.
C'est ça.
Oui. Est-ce que vous avez déjà été victime de ça? Vous avez déjà vécu un cas ou bien des cas comme ça, accès bénévole de l'Est de Montréal?
Non, pas moi personnellement, heureusement.
Ouais, tant mieux.
Le seul, la maternité, par contre, n'est pas couverte par les exceptions de la CNSEST.
Oui.
Donc, pour une travailleuse bénévole, la travailleuse bénévole enceinte sera pas admissible au programme pour une maternité sans danger qui est prévu par la loi sur la santé et la sécurité du travail.
Oui.
Donc, puis il y a aussi l'aspect des assurances des bénévoles. Par exemple, un bénévole qui va utiliser sa voiture pour faire de la livraison de repas ou pour emmener un passager à son rendez-vous médical.
Oui.
Si le véhicule appartient au bénévole et que la personne l'utilise, c'est la responsabilité du bénévole d'avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour son véhicule.
Oui.
Puis s'il l'utilise de façon régulière pour faire son activité bénévole,
oui.
par exemple, popote roulante à chaque semaine, ben ça serait judicieux de le déclarer à son assureur.
Ah, OK.
Ouais.
Ah, que par exemple, je prends un exemple tout bête là. Si moi je fais des cours de, disons, des cours de rattrapage à des enfants, que je me déplace tout le temps avec mon véhicule, il faut que je fasse fi à ça, à mon assureur.
Non. Non, c'est juste si la voiture est utilisée pour l'action bénévole, comme la
Oui.
livraison de repas ou accompagner une personne à un rendez-vous médical. Si l'activité est utilisée pour se rendre à son lieu de bénévolat, ça sera pas, c'est pas nécessaire d'en aviser son assureur, mais
OK,
c'est juste si
d'accord.
je fais entrer une personne comme un autre bénévole qui va me prêter assistance pour la livraison de repas, mais ça serait plus judicieux
Oui.
de le mentionner à son
OK,
assureur à ce moment-là.
OK, d'accord. Ouais, c'est un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on devait savoir?
Il y a
Pour
beaucoup de choses
terminer.
qu'on devrait savoir, mais il y a un guide juridique sur le bénévolat qui vient d'être développé par le Réseau de l'action bénévole du Québec.
Oui.
Donc, si les gens veulent avoir des compléments d'information, je les invite à communiquer avec nous,
Allez, souhait,
Accès bénévolat,
oui.
au numéro qui apparaît au bas de l'écran, 514-523-6599.
Oui.
Et ça me ferait un plaisir de les rencontrer pour
Le site web.
approfondir le sujet.
Oh, merci beaucoup, Marie-Danielle Bouger. Et je suis toujours content quand vous êtes là. Vous n'êtes pas régulière comme les autres chroniqueurs et chroniqueuses qui sont là hebdomadairement. Non, de toute façon, on ne peut pas parler de bénévolat toutes les semaines, mais au moins aux 4 semaines, ça fait du bien quand même, parce qu'il y a toujours vous avez toujours des sujets, ou bien l'intro, ou bien à quoi vous touchez, qui sont tellement différents d'une présence à une autre, quoi. Ça me fascine beaucoup.
Ben le bénévolat sur le genre, c'est pas plate du tout.
Il est vaste. Non, c'est pas. Non, non, c'est pas.
Vaste, c'est merveilleux, il y a plein de choses à dire. Et là,
Oui.
bientôt, ça sera la période de Noël, donc je me promets d'en reparler avec vous et vos auditeurs très, très bientôt.
Ah, très bientôt. Merci. Moi, j'ai échappé. J'ai jamais eu la chance de faire. J'en ai fait quelque part, mais très court moment. Une fois, je voulais donner des cours de bénévolat, des cours de français d'une manière bénévole. Mais c'était beaucoup plus pour les gens à la retraite. Voilà, qui avaient le temps. C'était pas le soir. Moi, je voulais faire ça le soir. Et je me suis dit, bon, le peu que je connais en français, j'aime la langue française, je pouvais.
Ça s'entend?
Voilà. Transmettre ça aux autres. Mais ça n'a pas été. Ça co correspondait pas avec mes horaires de travail. Jusqu'à présent, je me suis dit, bon, ben, on laisse tomber alors.
Ben, ce qui est difficile, c'est que le bénévolat s'exerce quand les organismes sont ouverts la plupart du temps. Donc, les organismes sont ouverts de 9 h à 5 h.
Oui.
C'est ça qui rend le bénévolat en soirée un
C'est
petit peu plus
difficile, voilà, c'est ça.
difficile.
Merci beaucoup, Marie-Danielle Boucher, et au plaisir de vous réentendre dans 4 semaines.
Oui, plus jean, à très bientôt.
À très
Puis on n'oublie
bientôt.
pas, le 5 décembre, de souhaiter une belle journée aux bénévoles que vous allez croiser.
Oh oui, je ne manquerai pas. Allez, bonne soirée à vous. À bientôt.
Moi aussi, plus jean, au revoir.
Au revoir.
This is the remix.
Aya tende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema, aya tende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema.
As we stepping on the club, the girl and whining to the top, me love the way them body going on, bang, bang, bang. Up in on the rave, the girl misbehave, and the man them be like, yo, bang, bang, bang. You like me, I like you,
tetema.
You want me, girl, I want you too,
tetema.
You like me, I like you,
tetema.
You want me. Oh girl, I want you to. Bad girl, me digging this. Your thin bad girl, you are the wickedest. Bad, wickedest. And the way you go and girl, you finish it. Girl, I hope that you date me, cause you captivate me and you activate me. Oh, there's no debating, girl, don't keep me waiting. It's a 5-star rating.
I attend the totem. Oh, mama tetema. Tipo tipo tetem. Oh, mama tetema. I attend the totem. Oh, mama tetema. Shuka chini tetem. Oh, mama tetema. I attend the totem. Oh, mama tetema. Tipo tipo tetem. Oh, mama tetema. I attend the totem. Oh, mama tetema. Shuka chini tetem. Oh, mama tetema. Katota kamenoga. Oh, mama. Kapandizi zapuko. Kapandisha boda boda, oh mama, kichoka kuchuma mboga, oh mama, ay mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah, ay mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi. Aya tuende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema, aya tuende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema, aya tuende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema.
tetema shoka chini tetema oh mama tetema
moko for mo kigbe o melody lodi sanku were dey your body ari gese bi oba ari jogo jele alaga ida mi fe lo mi mo fe mu gbele se fe mu gbele mo fe mu gbele mo chaye tele won mo gule fo won tun gbele pe ko se mole so ya ma je se mole mo ni ko ma je se mole te ba pe sanku ko pe body ma je se mole na bini come willy kakorojo rojo na ka fundi kana vota funa mo ogo that is to say were wa le bi to ti sele lowo wa omo naija wa nbe aye gbege jo ma se je je we se to fo da mi ri si loju oni fe je ta o ba yo mi se ti fo so mo fi sise ta ni mi ba ti mi ko fo ona ko ki ko se
oh mama tetema tipo tipo tetema oh mama tetema aya tende tetema oh mama tetema shuka chini tetema oh mama tetema aya tende tetema oh mama tetema tipo tipo tetema oh mama tetema aya tende tetema oh mama tetema shuka chini tetema oh mama tetema
tetema yani kama vile generator
tetema
kama muzika kupiga ngeta
tetema
mwendo wa kutunga kupepeta
tetema
chini nikipuliza tarumbeta
asa woza doza jeza shogoroza kufa chali kama mende maria rose poza tungi limegoza twende ni kupige nyembe
okay.
You make my mind go kolo 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 ukinuna tunie toro
toro toro
sani pesa digi digi
wash
you know ya digi digi
wash
funga kibindo mkwiji kwiji
wash
ni kunyonge kazigi zigi
tete oh mama tetema tipo tipo tetema oh mama tetema aya tende tetema oh mama tetema shuka chini tetema oh mama tetema aya tende tetema oh mama tetema tipo tipo tetema oh mama tetema aya tende tetema oh mama tetema shuka chini tetema oh mama tetema
tetema oh mama tetema sinigale tetema oh mama tetema Nigerian gets kerewa yes they love kerewa yes they masarewa they masarewa Tanzania gets kerewa yes they love kerewa kerewa ouais
ça ah oui tetema de Revani avec la complicité de Patrol Ranking d'Atlantique Diamond Platinum tetema. Voilà, je vais parler un peu rapidement de tennis avant de, si le temps me le permet, je vais parler de l'idée d'un impôt sur la fortune ISF. Climat, bon, on est toujours en COP26, il ne faut pas... Voilà, c'est pas fini là, ça va jusqu'à dimanche. Hein. Tennis, bon, il y a le Serbe Novak Djokovic qui, après sa victoire en finale d'ailleurs du Master 1000 de Paris contre le Russe Daniel Medvedev, un de mes préférés aussi, c'était le samedi passé. Hein. Donc là, il a terminé l'année numéro 1 mondial pour la 7e fois de sa carrière. Voilà. Là, il faut le dire. Hein. Il faut le faire. Contre 6 pour l'Américain Pete Sampras. Oh, ça, c'est un nom aussi. Hein. On l'a vu celui-là aussi sur les terrains de tennis, Pete Sampras. Ouais. Et puis le Serbe Djoko, qu'on appelle le Joker, qui a remporté le dimanche le Masters 100 de Paris, la sixième fois, ouais, c'est la septième fois de sa carrière. Et le Serbe, lui, comment dirais-je, le pauvre russe Daniil Medvedev, le pauvre, parce qu'il avait battu Medvedev, Djokovic, dernièrement, là, ouais, aux États-Unis. il dit, Djoko peut pas toujours gagner quand même. À un moment donné, il faut qu'on gagne aussi. Mais cette fois-ci, il n'a pas pu faire plier Djokovic. Voilà, c'était 4-6-6-3-6-3, dont le Joker dépasse ainsi Rafael Nadal, avec 37 sacres à Master 1000 contre 36 pour l'Espagnol. Ouais, Nadal aussi, il a un problème de santé. Hein. Son genou, je ne sais pas, c'est pas un problème mental, je ne pense pas, mais c'est beaucoup plus physique. Je ne sais pas s'il a des problèmes mentaux aussi, mais on ne sait jamais, les sportifs, à un certain âge, c'est comme Federer, je ne pense pas qu'il va revenir. Hein. Je ne pense pas. À un moment donné, ils vont prendre la retraite et puis c'est tout quoi. Voilà, alors c'est la petite nouvelle de tennis. De toutes les façons, le jeudi, quand la chroniqueuse de sport, Myriam Larache, va revenir, va nous bombarder des nouveautés dans le milieu du sport. Alors, l'idée d'un impôt sur la fortune ISF Climat qui fait son chemin, voilà. On espère que ça va aboutir à quelque chose. L'étude a été publiée le 21 octobre dernier. L'économiste Lucas Chancel, spécialiste des inégalités et de l'environnement, à propos, j'en parlais hier avec mon invité, qu'il faudrait mettre en place un impôt progressif sur la fortune, une sorte d'ISF. Voilà. En effet, 10% de la population la plus riche de la planète est responsable d'environ la moitié de toutes les émissions de gaz à effet de serre. On va revenir là-dessus de toute façon. D'ici la fin de la semaine, je vais revenir là-dessus, vous donner encore plus de détails. Voilà, il y a la pauvreté, les inégalités aussi, voilà, dans cette histoire de climat, d'environnement. On termine en beauté avec un jeune Québécois aussi, Thomas Day, Overplayed.
I thought I heard you laugh in my car, 'cause I played our song, but she sang your favorite part. For a minute I thought it was you, and I wish it was, to tell you the truth. Now I sleep over our weekends, hotel lets me stay. I jump in the pool first so she can feel safe. I know he said forever, but now forever's gone away. 'Cause you said you had to be alone, and that's just how it goes. We were better than what movies say, but now our story's overplayed. What do you do when you hear a song? Do you listen and cry, or do you quickly turn it off? I wish sometimes you'd tell me that you're sorry. I wish I was next to you, and I shouldn't be texting you. Sleep over our weekends, hotel lets me stay. I jump in the pool first so she can feel safe. I know he said forever, but now forever's gone away. 'Cause you said you had to be alone, and that's just how it goes. We were better than what movies say, but now our story's overplayed. The photos, the memories, I can't believe they're killing me. I'm sorry, you're sorry, but where are we? Your necklace, my t-shirt, your eyes when you told me this won't hurt. Where are we? Where are we? Where are we? Now I sleep over. Hotel lets me stay. I jump in the pool first so she can feel safe. I know he said forever, but now forever's gone away. You said you had to be alone, and that's just how it goes.
Oh, hey, Thomas Day, Overplayed. Restez à l'écoute, et puis bon, après la petite pause publicitaire, on va recevoir notre invité qui va nous parler de passion des musées de Québec à Lyon, Michel Côté. Donc on va découvrir un peu les facettes des différents musées dans lesquels il a évolué. Bon, restez à l'écoute juste après la petite pause publicitaire.
Écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas. Thank you.
Mandy Hervé, try. C'est une chanteuse américaine. Elle n'entend même pas ce qu'elle chante elle-même. Malentendante. Oh, elle est sourde. À 18 ans, elle a perdu la... Voilà, cette sensation d'entendre tout ce qu'on entend ici. Elle ne peut plus entendre ça. Donc elle chante, elle ne s'entend même pas. Ouais, ouais. Elle joue à la guitare ukulélé, elle n'entend même pas. C'est sud des signes. Donc normalement, ces spectacles, on n'applaudit pas. On fait comme ça. Parce que si on applaudit, elle n'entend même pas. Donc il faut la regarder puis faire l'applaudir avec les mains, les doigts, quoi, c'est tout. Voilà. Bon, peut-être que c'est un public qui ne la connaissait pas, qui a applaudi, là, qui a crié waouh, mais elle n'entendait pas. Ouais. Voilà, notre invité déjà au bout du fil, c'est le muséologue, le grand Michel Côté, qui a été directeur général du musée de la civilisation au Québec et concepteur directeur du musée des confluences à Lyon. C'est là même d'où vient, c'est de là que vient le titre de passion de musée de Québec à Lyon. Il va nous expliquer tout ça en détail, ainsi que président d'ICOM Canada et membre du conseil d'administration du Conseil international des musées à Paris, titulaire de la Légion d'honneur, membre de l'Ordre national du Québec et officier de l'Ordre des arts et des lettres de la République française, Michel Côté a reçu un doctorat honoris causa de l'École normale supérieure de Lyon pour souligner son travail en muséologie. Je ne sais pas, il va nous le dire, s'il dort, s'il mange, s'il rêve tout le temps musée, il va le dire. Bonjour Michel Côté.
Bonjour, oui, effectivement, je dors et je pense musée.
Oui, comment allez-vous?
Très bien, merci.
Merci d'avoir sorti ce beau document, ce beau livre, de très belles photos là-dedans, de souvenirs. Je pense bien que quand vous-même vous le feuilletez là, vous retrouvez encore dans des années avec toutes ces personnes que vous rencontrez durant votre parcours muséologique, si vous me permettez l'expression. Comment est venu l'amour pour les musées?
Dans le fond, c'est une rencontre, c'est la découverte d'une expo, dans le fond. Plus on visite les musées, plus on devient amoureux des musées.
Oui.
Moi, c'est qu'en visitant, honnêtement, c'est en visitant une expo à Stockholm, en Suède, que je me suis dit, voilà, un métier absolument extraordinaire, essayer d'expliquer le monde, de décoder le monde à partir des objets, à partir d'un récit en trois dimensions avec un parcours.
Oui.
C'est là que j'ai réellement développé l'amour des musées. Et après, c'est en faisant qu'on devient forgeron et en faisant des expos,
oui,
qu'on découvre la richesse aussi des expos, mais aussi la richesse et la profondeur des objets. Parce qu'il y a des expos, mais aussi des collections.
Wow. Vous dites que, bon, pour vous, un musée doit avoir trois éléments, le plaisir, la connaissance et la réflexion.
Absolument.
Expliquez-nous ça un peu, s'il vous plaît.
Oui. Bon, on va d'abord au musée par plaisir, pour l'enchantement.
Oui.
On y va pendant notre temps de loisir, on y va parce que c'est agréable. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Si on s'arrête là, on s'arrête à Walt Disney, dans le fond. Hein.
C'est ça.
C'est émerveillant. L'idée, c'est que le musée devienne aussi un lieu de connaissance où on apprend des choses.
Oui.
Où on découvre des choses, où on s'ouvre un peu au monde. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une troisième dimension qui était aussi importante, c'est que ça provoque la réflexion.
Oui.
En sortant du musée, on se dit, oh tiens, j'ai découvert quelque chose et je voudrais aller un peu plus loin. Je vais lire un livre, je vais aller voir un film, je vais écouter de la musique, je vais essayer de comprendre autrement la réalité. Donc, le musée est un lieu d'éveil, dans le fond. Hein. Et je pense que c'est excessivement important.
Oui.
Donc, d'avoir les trois volets, parce qu'il faut que ce soit agréable, il faut qu'on apprenne et il faut qu'on réfléchisse.
Oui. Donc ce livre que j'ai ici, en face de moi ici, je, depuis que je l'ai reçu, je n'arrête pas de le faire de très belles photos. Et puis tout ce que vous avez écrit, votre parcours même d'ailleurs, qui est là-dedans d'ailleurs, ça lève de Québec à Lyon, ça lève le voile sur l'organisation et le fonctionnement de ces institutions et sur leur inscription dans la vie muséale internationale. Comment les musées fonctionnent, au fait? Nous, là, nous qui allons au musée de temps en temps, là, moi, personnellement, monsieur, madame, tout le monde, là, quand on arrive, on voit les œuvres, le plaisir des yeux, on est ébloui, il y a l'éblouissement, l'émerveillement qui est là. On se demande, les artistes, la plupart du temps, on n'a pas la chance de les voir, de les croiser dans le musée. Et puis, vous qui êtes dans l'ombre, vous, les organisateurs, qu'on ne rencontre presque jamais.
Oui, très peu, effectivement. Dans le fond, ce livre veut lever le voile un peu, effectivement, sur le derrière de la scène. Hein. C'est comme quand, lorsqu'on va au théâtre, on ne voit pas tout, tous ceux qui travaillent derrière la scène, mais dans le fond, ce livre veut aussi dévoiler un certain nombre de réalités.
Oui.
Parce qu'avant de faire même une expo, il y a un travail de recherche qui est important, qui est sur un grand inconnu, qui est un travail aussi de trouver les objets les plus pertinents, qui racontent le mieux ce qu'on veut raconter. On s'interroge de toute façon sur la valeur esthétique, sur l'authenticité des objets, sur leur sens. Donc, tout un travail de réflexion avant même de mettre en scène.
Oui.
Mais en plus de mettre en scène, il faut se poser la question quelle muséographie est le mieux adaptée à l'histoire qu'on veut raconter, au récit qu'on veut faire.
Oui.
Et après, il y a tout l'enjeu, dans le fond, de ce que j'appelle la médiation, c'est-à-dire qu'on fait les musées d'abord et avant tout pour des visiteurs, hein, pour des publics, et on s'aperçoit que les publics sont pluriels, ils n'apprennent pas tous de la même façon, ils découvrent pas tous, ils n'ont pas tous la même sensibilité.
Oui.
Et donc, il faut parfois adapter la muséographie, non seulement au sujet, mais aussi au public qu'on veut rejoindre. Donc, tous les efforts qu'on doit faire de démocratie et de démocratisation culturelle, c'est aussi des enjeux excessivement importants.
Oui.
Donc, ce livre veut raconter, dans le fond, de l'idée jusqu'à sa réalisation, mais plus que la réalisation, plus que le contact avec les publics. Je pense que c'est ça qui est excessivement important. Un musée existe d'abord et avant tout pour ses visiteurs.
Oui.
C'est sûr.
Ouais, ouais.
On découvre aussi, par ailleurs, que le musée a un impact dans la ville. Il a un impact important sur le plan urbain. D'ailleurs, les grands projets d'architecture à l'heure actuelle à travers le monde sont souvent des projets liés au musée. Tous les grands architectes ont voulu réaliser un musée.
Mmh.
Et c'est vrai que maintenant, les musées avant étaient considérés comme des coffres-forts parce qu'on protégeait les collections.
Oui.
Maintenant, ils sont beaucoup plus transparents. Ils sont un élément signal dans la ville et on invite les visiteurs à entrer dans le musée. Donc, ce sont plus des lieux de diffusion, d'animation.
D'animation, oui.
Que des lieux uniquement de conservation.
Mmh. Quand vous rencontrez quelqu'un qui dit « Moi, je ne comprends rien dans les arts, je ne vais pas au musée », comment vous réagissez?
Je me dis que c'est pour ça qu'il faut venir.
Voilà.
Hein? Non, mais c'est comme dans tout, c'est par la pratique aussi qu'on apprend, c'est qu'on s'éveille.
Mm-hmm.
Si vous buvez du vin, les premières gorgées que vous prenez, vous ne distinguez pas un grand cru d'une piquette. C'est plus vous en buvez, plus vous pouvez distinguer un grand cru.
Ah oui, c'est ça.
Et donc, on découvre en pratiquant.
Mm-hmm.
Et donc, c'est un peu la même chose, je dirais, pour les musées.
Oui.
Plus on pratique, plus on voit les différences. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus difficiles. Pensons au Québec, par exemple, tout l'art africain est très peu présent.
Oui.
Dans notre ville, alors que dans d'autres pays, l'art africain est très présent. Alors, le musée se doit de présenter aussi ce qui se passe ailleurs. L'histoire de l'art n'est pas qu'une histoire de l'art occidental, là où ça rejoint tout le monde.
Oui.
Et donc, comment on fait pour présenter un art qui est un peu inconnu, comment on fait pour le faire découvrir?
Oui.
C'est donc en offrant d'abord la chance d'entrer en contact avec. Et c'est vrai que là, c'est une question souvent de muséographie, de médiation, d'explication. Et c'est pour ça que les musées inventent toutes sortes de façons pour raconter les histoires, mais aussi pour maintenir le contact avec le public. D'ailleurs, les musées sortent de plus en plus de leurs murs. On fait des expos en dehors des murs, on va rejoindre les gens où ils sont, dans les hôpitaux. On a fait des expos dans les hôpitaux, dans les centres commerciaux.
Dans les centres commerciaux, oui. Oui.
Un peu partout, quoi, pour que les gens découvrent et après qu'ils soient apprivoisés par cette forme d'expression.
Ouais. On va faire une petite pause musicale. Et puis on revient pour savoir comment naît une institution muséale. Je pose cette question parce que vous avez été, vous savez, c'est vous qui avez conçu le musée de Lyon. Voilà.
Oui. Alors,
comment ils sont venus chercher le Québécois? On fait la petite pause musicale et puis on vous revient.
Fait l'amour ensemble 80
Ariane Moffat, Pierre Lapointe et Michel Robidoux qui vient de nous quitter. Paix à son âme, que la terre lui soit légère. La Bagoman, bien sûr. Notre invité est toujours avec nous. Comme je l'avais dit avant la petite pause musicale, commander une institution muséale, parce que c'est lui que les Français sont venus chercher. Oui, pour entièrement conçu un musée à Lyon, conçu par un Québécois. On est fiers de ça, d'ailleurs, de l'entendre. Ça a été en 2014. Ça vous rappelle de très bons souvenirs, ça. Comment la rencontre s'est faite?
Bon, ben, c'est une longue histoire. C'est vrai que les gens en Europe en général, en France en particulier, les musées sont très centrés sur la conservation,
oui.
Sur la protection des objets et très peu sur la médiation à l'époque.
Oui.
Et c'est vrai que moi, j'avais une pratique non seulement au Québec, mais j'ai fait des expos aussi à l'international.
Oui.
Qui démontrait que l'importance de communiquer avec le public, d'échanger avec les publics en général, et que le musée devenait un lieu réellement d'animation culturelle important.
Oui.
Et donc, ce qui les intéressait, c'était ça, dans le fond, comment transformer un lieu où il y a des collections importantes, parce que c'était des collections d'Émile Guimet qui a fondé le musée des arts asiatiques à Paris.
Mm-hmm.
Donc, il y avait un fonds important, mais avec peu de public. Et donc, l'idée était de transformer ce lieu, de le rendre un peu plus actuel. Et on a transformé aussi fondamentalement en faisant un vrai lieu qui essayait de décoder le monde, essayait de comprendre la réalité du monde contemporain, puisqu'on s'adresse à des visiteurs actuels, contemporains, et d'essayer de leur donner des portes d'entrée, autant par les sciences que par l'ethnologie ou la sociologie ou l'histoire ou l'anthropologie pour essayer de comprendre le monde actuel. Et c'était un changement profond,
oui,
qui nous a amené à faire un concours d'architecture internationale qui est d'ailleurs une œuvre absolument réussie d'un grand architecte, Koppenblatt, qui sont des Autrichiens, qui a marqué un peu la ville. Donc, Lyon est une ville de savoir, c'est vrai, une ville de connaissances depuis longtemps, et on voulait qu'à l'entrée de la ville, il y ait un lieu de partage de savoir,
oui,
de partage de connaissances.
Mmh, mmh. Parce que le musée est à la porte d'entrée de la ville, quoi, la confluence d'un fleuve, le Rhône, d'une rivière, et puis la Saône aussi.
Absolument, donc, est à la pointe de la presqu'île entre le Rhône et la Saône, donc c'était à la confluence.
Oui.
Et pour nous, c'était la confluence de la rencontre entre la science et la société,
mmh,
et la confluence d'un lieu, le musée comme lieu de rencontre. Donc, c'était presque naturel de l'appeler confluence pour les lieux géographiques, mais surtout pour le projet culturel.
Oui, oui.
Cette idée qu'un musée était un lieu de partage et un lieu de rencontre avec tous les visiteurs et tous les publics.
Oui.
Et ça nous a permis de faire des expos, d'expérimenter des expos qui étaient peu habituels, dans le fond, à Lyon. On a fait, par exemple, une expo sur la notion de frontières, les frontières dans le monde. Les frontières fermées comme en Corée, les frontières incertaines comme au Cachemire, les frontières difficiles comme entre les États-Unis et le Mexique ou entre la Palestine et Israël.
Oui.
Donc, de faire des expos, là, on a fait sur le harem, sur le principe de précaution, mais aussi sur des pays comme le Mali contemporain et sur le Japon et tout. Donc, ouvrir un peu la ville, ouvrir la société à ce qui se passe, à des enjeux contemporains.
Oui, oui. Est-ce que quelquefois vous dites, bon, ben, est-ce que Michel Côté a atteint ce qu'il voulait dans le musée, dans le milieu des musées, ou bien il a encore d'autres projets qui dorment au placard et puis... je sais pas. Parce que ce projet en France était considéré comme un projet pharaonique, un 5 ans projet que vous avez fait là à Lyon.
Ah oui, c'est un projet qui est un projet phare, effectivement. D'ailleurs, en dehors de Paris, c'est le musée le plus fréquenté à l'heure actuelle en France.
Oui.
Donc, ça fonctionne très, très bien et qui est devenu une référence. Comme le musée de la civilisation a été pendant longtemps une référence mondiale.
Oui.
Et le musée des confluences est devenu, c'est vrai, une référence aussi, ce qui souvent nous a entraîné à faire des dialogues avec d'autres pays, que ce soit le Japon, l'Argentine, l'Allemagne. J'ai travaillé beaucoup aussi avec l'Espagne.
Oui.
Parce que les gens étaient intéressés de voir comment on pouvait fonctionner, comment on fonctionnait pour pouvoir voir s'ils ne pouvaient pas s'inspirer de cette façon d'opérer. Et,
oui.
Et nous-mêmes, on s'enrichissait aussi en partageant leurs propres compétences, les compétences de ces pays-là, pour enrichir notre propre discours et notre façon aussi de travailler. Mm-hmm. Donc, les musées sont devenus de plus en plus internationaux. Ils sont dans un réseau national, bien sûr, mais ils sont surtout dans un réseau international.
Oui.
Non seulement pour pouvoir emprunter des objets ou prêter des
voilà,
objets.
Voilà, je m'apprêtais à vous demander, est-ce qu'il y a une collaboration entre les différents musées à travers la planète?
Oui, c'est obligatoire presque. On ne peut pas fonctionner sans ça.
Oui.
Et donc, d'ailleurs, la période de la COVID a entraîné quelques problèmes
oui.
mais, de circulation des objets.
Des
mais,
objets, oui.
Mais c'est sûr que lorsqu'on veut monter une expo sur l'Égypte ou sur le monde grec, vous devez donc nécessairement travailler avec plusieurs institutions.
Oui.
Par exemple, quand j'ai monté une expo sur le Mexique, j'ai calculé que j'avais travaillé avec 52 musées et lieux d'exposition au Mexique, parce que les objets se trouvaient dans plusieurs lieux différents.
Oui.
Donc, il faut développer effectivement une espèce de connivence avec le milieu international.
Oh oui.
Et donc, ça prend aussi donc une crédibilité, parce que les gens ne prêtent pas s'il n'y a pas des conditions qui sont respectées, des conditions de conservation, de protection des objets, de rayonnement international, de publication, d'études.
Mm-hmm.
Donc, c'est un travail fin qu'on doit élaborer si on veut pouvoir présenter au public des œuvres de qualité.
Oui, 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 oui. Voilà, ce livre, depuis que je l'ai, sincèrement, je vous le dis, j'apprends tellement de vous, ce que vous avez laissé là-dedans. Je suis pas... Quand même, quand je vais au musée, je regarde les œuvres, je dis, moi, je viens pour le plaisir des yeux. Je ne serai jamais spécialiste de l'art. En général, je ne m'y connais pas. Mais je vais là, pour les yeux, je regarde et puis je connais un peu l'histoire de... Qu'est-ce que l'artiste me fait découvrir? Ben, est-ce que je deviendrai un joueur forgeron? Non, je ne pense pas. Je veux dire un connaisseur. C'est pas ça l'intérêt. Pour moi, c'est avoir du plaisir d'être là. Et puis, ça me permet de m'instruire, de découvrir au moins, de voir un peu le parcours de l'artiste qui nous expose ces chefs-d'œuvre-là. Voilà.
Alors, absolument, oui. Il y a tellement de choses à découvrir.
Oui, oui. Bon, cet ouvrage-là, un ouvrage, il est déjà en librairie. Pour ceux qui nous écoutent, voilà, pour la dernière minute, il est déjà en librairie depuis le 12 octobre. Si vous n'avez pas encore votre copie, Passion de musée Michel Côté, de Québec à Lyon. Même la photo, belle photo de couverture. Et puis bon, je me dis, allez chercher votre copie là-bas. Les dernières 30 secondes qui nous restent, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ne, comme je l'avais dit, qui vont de moins en moins, qui vont très peu ou bien qui ne vont jamais dans les musées, qu'est-ce que vous voulez laisser comme message?
Non, mais c'est un vrai lieu de découverte. On ne peut pas sortir indemne d'un musée.
Oui.
Donc, si vous entrez, vous allez sortir changé.
Oui. Merci beaucoup, Michel Côté.
C'est moi qui vous remercie.
Oui. Vous êtes un grand, grand, grand muséologue. Merci beaucoup.
Merci.
Et j'espère qu'on aura un tome 2 de Passion des musées. Hein?
Peut-être.
Peut-être. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Mela mela gana umangara gana ya mi bankire fa faravolanga Anga laka money, yeah. Eva Fanta konifika, no. Fanta kuratia, no to. Anata kanaya, no. Anafoka na, yeah. Meka, no. Sadi miangutu mi bebe, bebe. Mara kizebe fitia vanga, be. Mi sambatika, mi sentere. Oh, yeah. Bizu afyan bava adi. Fwanga timi sini adi. Oh, madame, oh. Yavanga farani fo langani no Erina lufanga pare avake waitiza ngakale Cheku na nginu yo vanirano Azuntazu karyanga no bebe avilete kiya saramuse Bati papa mone mone mone
Bati papa
mone mone mone
Ozati papa
mone Money, money,
Saudi Papa.
Money, money, money. Tiavanga fara ni vola nganino. Erina lufanga pare. Avake wa idiza ngakale. Cheku nganinu niyo vanirano. Azunta zunka rianga no bebe. Avile teki ya saramuse. Oh, Fati Papa, money, money. Sati papa mone, mone, mone. Sati papa mone, oti papa mone.
Oshina, Fiti, Wanga, Fafari, Fulanga. On a fini l'émission d'aujourd'hui. Comme ça, on dit merci à notre chroniqueuse de bénévolat, Marie-Danielle Boucher, qui est venue nous parler un peu du statut des bénévoles. Et puis, le grand muséologue Michel Côté, passion des musées de Québec à Lyon. Voilà, allez-y, il est déjà en librairie depuis le 12 octobre. Merci à toi, Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine, le lundi. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. On se retrouve demain, sur les ondes du Canal M, à la même heure, dans le même studio. Et je vous dis ciao.